Encore un thème qui que j'hésite pas à aborder le mercredi soir, le vendredi soir, parce qu'il n'y a pas qu'un message d'évangélisation, il y a aussi un message de sanctification et de conduite de vie chrétienne. Je crois que j'ai plus forcément souvenir de tous les thèmes qu'on avait abordés, mais il me semble qu'on avait vu que dans la notion du pardon, il y a la prise en compte de la colère, de l'expression, de ce sentiment qui peut venir là lorsqu'on est offensé. Et il est important de ne point étouffer ça, il est important d'être capable d'exprimer le sentiment, c'est-à-dire de mettre des mots sur la souffrance qu'on a subie en tant qu'offensé. Mais mettre des mots, ça ne veut pas dire vouloir rendre le mal pour le mal, on est d'accord. Et puis on avait vu que le pardon était libérateur. Le fait que de pouvoir pardonner, ce n'est pas seulement l'autre que l'on pardonne, qu'on blanchit, mais c'est également une démarche personnelle qui nous permet également de sortir de tout ce système de mauvais sentiments qui peut se former dans notre cœur. Et donc il nous libère. Je vous invite dans Matthieu, vous y êtes ? Chapitre 6. La plupart d'entre nous, ce que je vais lire là est connu, ou risque même peut-être de lire et que vous ayez l'esprit déjà un petit peu ailleurs, parce que vous auriez l'impression de connaître ce texte par cœur. Matthieu chapitre 6, où les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Et au verset 9, Jésus dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, comme vous avez pu vous apercevoir, il y a dans la prière, dans le mécanisme de la prière, dans les différents aspects de la prière, hein, je pense que vous avez eu l'occasion déjà, pour la plupart d'entre vous, eu l'occasion d'avoir des méditations sur les différents points qui sont évoqués par Jésus sur les thèmes de la prière. Il y a le thème du pardon qui est retranscrit comme ça dans nos textes là: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je voudrais dire que ce soir on va voir un thème qui est le pardon qui justifie. C'est-à-dire que le fait de pardonner, ça blanchit. C'est dans le monde, on parle de blanchiment d'argent sale, ok? Hop, vente de cocaïne, hop, on passe par une association caritative et hop, on récupère l'argent et c'est de l'argent blanchi. Et bien il en est de même. La Bible nous montre, et plusieurs passages, hein, je vais interpeller votre conscience là-dessus, nous montre que le pardon, ça blanchit. Et nous avons lu là: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand on le lit, on a l'impression que je pardonne comme Jésus pardonne, ok? Mais en fait, dans le texte grec, le temps des verbes est un peu plus précis. Et notre traduction dit: remets-nous nos dettes. En plus, c'est cette notion d'avoir une dette. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. En fait, le sens de la phrase, c'est pas seulement s'il te plaît pardonne mes péchés comme nous allons le faire. En gros, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné. Vous voyez le processus? C'est pas je fais parce que tu vas le faire ou je vais le faire parce que tu vas me le faire. C'est: Seigneur, pardonne mes offenses, pardonne mes péchés parce que moi-même je l'ai déjà fait, comme je l'ai déjà fait vis-à-vis des autres. Et ça, c'est important déjà. Parce que Et c'est là que je pousse un peu le bouchon. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire, je te pardonne si toi, tu as déjà pardonné. Et c'est tellement vrai qu'une fois que Jésus a enseigné les disciples à prier, lisons le reste à partir du verset 14. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, ok ? Si vous ne le faites pas, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Non, c'est l'inverse. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous avez vu l'ordre des choses ? C'est tellement important que même Jésus, il réinsiste, il explique bien. Au fait, tout à l'heure, je vous ai appris à prier, mais je vous rappelle bien l'ordre des choses. C'est pas que comme je pardonne, comme Dieu pardonne, vous aussi vous pardonnez. Non, c'est pas du tout l'ordre. C'est si vous vous pardonnez premièrement, alors votre Père aussi céleste vous pardonne. Lorsque nous pardonnons, alors nous nous blanchissons. C'est ça. Étant donné que le pardon de Dieu sera conditionnel au pardon que nous nous aurons accordé aux autres. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas à quelqu'un, Dieu me retient la faute. Si je pardonne à l'autre, alors il me blanchit aussi. Et c'est rare qu'on pense ça comme ça, n'est-ce pas ? Souvent, on pense au pardon d'un point de vue, on fait pareil, je fais comme Dieu. Ce qui est une bonne chose, on va voir pourquoi. Mais lorsque l'on voit l'exigence que Jésus est en train d'insister là, il dit, je ne te pardonne pas parce que toi, là, l'histoire de avec ton beau-frère, tu n'as pas pardonné. Et moi, tu veux que je te pardonne ? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Toi, pardonne. Et je te pardonnerai. Oh. Est-ce que ça veut dire que nous devons demander ? On va développer le sujet. Hein. Mais est-ce que cela nécessite que nous devions demander, on va dire aux inconvertis, qu'ils aillent d'abord demander pardon aux autres afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Parce que si on va jusqu'au bout de la logique, on devrait faire ça. Si Dieu ne pardonne nos péchés qu'une fois, enfin, qu'après que nous ayons demandé pardon aux autres, c'est-à-dire que lorsque les inconvertis viennent, avant de leur prêcher le pardon de Dieu, on devrait dire, ah stop, attends, oui, alors je te parle le pardon de Dieu, mais en fait, avant, il faut que toi, tu ailles demander pardon. On est d'accord, si on est logique jusqu'au bout. Est-ce qu'on devrait faire ça ? Oui et non. En fait, le vrai principe, c'est que, premièrement, tous les êtres humains sont appelés à rencontrer le pardon de Dieu, premièrement. Comment ? Ben, au contact de la parole de Dieu. Ils découvrent la vérité, ils sont touchés. Ils découvrent le salut par grâce, ils prennent conscience de leurs péchés, ils demandent pardon, ils s'humilient devant Dieu et ils reçoivent le pardon de leurs péchés par la foi. Amen. De là, ils deviennent de nouvelles créatures, des chrétiens. Et c'est là tous les enseignements que nous avons sur le pardon, la plupart des enseignements que Jésus a donnés, et notamment là, ce sont à des chrétiens. Donc il y a deux rapports de pardon. À quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la première chose qu'il doit rencontrer, c'est le pardon de ses péchés en Jésus-Christ. Repens-toi et tu seras pardonné. Convertissez-vous et vos péchés seront balayés, effacés, bien sûr. C'est lorsque la première chose que l'homme a besoin, c'est de recevoir le pardon de Dieu, c'est d'être débarrassé de ses péchés. Mais une fois que la personne est débarrassée de ses péchés, qu'il naît de nouveau, qu'il est un chrétien, c'est-à-dire un représentant de Christ sur terre, alors là, Dieu est très exigeant. À partir de là, à partir du moment où nous sommes au Seigneur, que notre vie a été pardonnée, blanchie, à partir de maintenant, nous n'avons plus droit de ne point pardonner. Parce que sinon, c'est ce qu'il dit. Donc faisons attention dans la notion du pardon. Il y a deux rapports. Ceux du monde, qu'il se repente, il reçoit tout de suite le pardon. Ça, c'est une évidence. Mais une fois que la personne a été pardonnée, alors il devient un chrétien, un enfant de Dieu, un témoin de Jésus-Christ. Et là, Jésus est intransigeant sur la notion du pardon. C'est fort quand même, hein, ce qu'il dit. Hein. Souvent, on parle, ah, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Mais plein, à plein d'autres passages, il sent parler du blasphème dans le Saint-Esprit, il dit, si toi, tu ne pardonnes pas, mais je vais te pardonner. Et pourtant, je pense qu'on a tous régulièrement de quoi de dire, Seigneur, pardon, n'est-ce pas? On a besoin d'être justifié, on a besoin que le Seigneur nous dise, bon, je patiente, mon gamin, je t'aime encore, allez. Merci, Seigneur, merci, que ferais-je sans ta patience? Mais si on vit comme ça, mais que nous savons qu'il y a des points de dureté, parce que nous ne sommes pas dans un processus de réconciliation, de pardon, alors nous nous trompons nous-mêmes. Alors, par illustration, hein, par exemple là on est dans la prière, on se doute bien que c'est à des chrétiens, enfin c'est à des disciples que Jésus parle. Lorsque il y a cette conversation, c'est en Matthieu chapitre 18, lorsque Pierre demande à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner? 7 fois? Je te dis pas 7 fois. C'est bien un disciple qu'il est en train de parler, c'est pas un inconverti. J'ai aussi repris Luc chapitre 17 où Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le et pardonne-le. Donc on est bien, si un frère a péché, tu le reprends et tu pardonnes. Donc en fait, partout, on s'aperçoit que lorsque Jésus enseigne sur la notion du pardon, c'est pas aux païens qu'il parle, c'est aux disciples. Et à ce niveau-là, il est vraiment exigeant. Alors pourquoi Jésus, Dieu, est-il si exigeant sur la notion du pardon? J'ai relevé trois aspects. Le premier aspect, c'est que depuis que nous sommes au Seigneur, nous ne sommes pas seulement des individus, nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Dieu. Nous sommes représentants de Dieu. C'est notre identité, c'est ça?
Oui.
C'est pour ça que vous souriez? C'était leur thème de mardi soir. Nous sommes des ambassadeurs. Là où nous sommes, nous représentons Dieu. Et comme Dieu est un Dieu de pardon et comme Dieu veut pardonner tous les hommes, parce que c'est la première des choses que l'individu doit rencontrer, la première chose qu'il doit rencontrer, c'est de savoir qu'il peut recevoir le pardon. Le pardon de ses péchés. Si nous offrons une autre image, alors nous ne sommes pas ambassadeurs. Nous détruisons, nous déformons le visage de Dieu. Nous détruisons le visage de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important. Colossiens chapitre 3, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça arrive. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça arrive. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et toute la Bible nous parle d'un Dieu qui veut pardonner. Donc nous ne devons pas déformer Dieu lui-même, son image ou sa vocation, parce que je dis bien sa vocation parce que Jésus est venu sur terre pour pardonner. Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Tout, la mission même de Jésus, c'est d'apporter le pardon. Si nous nous disons revendiquer de sa personne, nous devons avoir cette transmettre, communiquer cette dimension du pardon. Donc si quelqu'un au milieu de nous, dans notre entourage, nous connaît comme étant quelqu'un qui retient la chose, qui refuse de pardonner, qui refuse de rentrer dans le processus du pardon, alors nous sommes en train de lui donner une fausse image de Dieu. Et rappelons-nous que le monde jugera Dieu au travers de nous. C'est à l'amour que vous avez au milieu de vous que le monde verra que vous êtes véritablement mes disciples. Nous sommes le reflet de Dieu sur terre. Nous le sommes. D'où cette importance. Le monde jugera Dieu à travers de nous, et notamment par rapport au point de vue. Donc un disciple qui ne refuse de pardonner, Dieu lui-même, je ne te pardonne pas non plus. Parce que tu n'es pas l'image que tu devrais représenter. La deuxième raison pour laquelle Jésus est intransigeant sur la notion du pardon, c'est qu'en refusant de pardonner, ben on maintient l'autre dans sa faute. On maintient l'autre dans sa faute. C'est Proverbes, chapitre 17, verset 9. il est écrit que celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis. Celui qui rappelle une faute divise les amis. Si en tant que chrétien, nous refusons de pardonner, c'est-à-dire que nous cultivons la division. Si je rappelle une faute, parce que c'est ça, si je refuse de pardonner, je la rappelle d'une manière ou d'une autre. Même si je ne dis rien, notre attitude parle, n'est-ce pas? Notre regard parle, n'est-ce pas? Notre manière de prendre la distance parle. Ne soyons pas des hypocrites ou des naïfs du monde. Si je regarde quelque chose dans mon cœur vis-à-vis de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, ça transparaît. Ça transparaît. L'amour est vrai, l'amour est expressif, l'amour est dynamique. C'est ça le vrai amour. L'amour n'est pas froid, l'amour n'est pas distant. Regardez, rappelez-vous, moi je trouve Adam extraordinaire. Comment Adam, juste après la faute, a appelé sa femme, Ève, dispensatrice de vie. On voit qu'au travers du nom qu'il donne à sa femme, c'est un pardon. Mais il n'y a même plus aucune référence à la faute qui a été commise dans le jardin d'Éden. Ça, c'est une manifestation de quelqu'un qui ne revient pas sur une division, sur une faute. Mais il transcende la faute, il la porte à autre chose. C'est ça le pardon. C'est pas « j'oublie et puis je t'enverrai des petites boutades pour te rappeler que ». C'est pas ça pardonner. Celui qui rappelle une faute divise. Et on sait que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va diviser le peuple de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qui va diviser, qui va faire des divisions, qui va semer le doute. C'est pas l'Esprit de Dieu qui va semer à réveiller la douleur chez quelqu'un, qui va lui rappeler sa honte, sa culpabilité, sa faute. Mais c'est le diable. Donc on ne peut pas avoir le même esprit, avoir l'Esprit de Dieu qui pousse au pardon, à la réconciliation, qui est pacifique, modéré, et en même temps, entretenir ce petit jeu malsain qui serait de garder quelque chose et rappeler la faute ou piquer parce qu'il y aurait quelque chose dans notre cœur qui ne serait pas encore réglé. Je connais une histoire, c'est triste, hein. C'est un couple où le mari est capable de rappeler à sa femme des fautes qu'elle a faites, mais quand vous l'entendez, vous avez l'impression que la faute a été faite la semaine dernière. Alors que c'est des fautes, des erreurs, vraies, mais qui étaient commises des années avant, même avant la conversion. Et le bonhomme, il ramène ça comme ça. Clac. Vous voyez les blessures que ça réveille, le manque de confiance, à toujours devoir se justifier. Et au bout d'un moment même, l'épouse arrête de se justifier, mais vous comprenez l'ambiance que cela peut créer, la crispation que ça fait, la division dans le couple, les souffrances. Ça, c'est l'œuvre du diable de chercher à rappeler. La Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, ils sont jetés jusqu'au fond des mers. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du pardon de Dieu. Et notre pardon doit être de la même chose. On ne doit pas être de ceux qui cherchent encore les cadavres enterrés et les rappeler, parce que cela ne vient pas de Dieu, cela vient du malin. Et que nous soyons non pas des artisans de division, mais comme il est dit, couvrir des fautes, ça, c'est aimer. Et le troisième aspect pour lequel Dieu est si exigeant sur la question du pardon vis-à-vis de ses enfants, c'est que derrière un non-pardon se cachent de mauvais sentiments. Forcément. Si on reprend notre histoire de vendredi soir, on était dans Luc 15. Alors on voyait le papa qui se jetait dans les bras de son fils, « Tu le verras, c'est la fête ». Mon fils qui était mort et il est vivant, mais il est revenu à la vie. Et t'as le frère aîné qui débarque, il entend ça. Il se met en colère, bibliothèque. Il se met en colère. Il refuse de rentrer à la maison. Oh, t'as le papa, il a le cœur brisé. Il va voir son fils aîné, il dit, mais rentre. Non, je ne rentre pas. Et puis l'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête là, on ne connaît pas la suite. Mais on peut l'imaginer la suite. Soit le fils aîné rentre en lui-même, et puis bonhomme à l'an, bah, il rentre à la maison, et puis il rentre dans ce processus de pardon. Ou alors, il garde ça au fond de lui, n'est-ce pas? Il va bien finir par rentrer à la maison parce que c'est là qu'il habite quand même. Mais vous imaginez l'ambiance? Le papa, la maman, content. Et le frère cadet, à la fois, il a le cœur touché parce qu'il se sent accueilli alors que lui-même se sentait misérable. Vous vous rappelez de sa prière? Je suis plus digne d'être appelé ton enfant. Enfin, il était vraiment humilié, brisé. Et puis là, il y a son papa qui le sait, qui l'embrasse. Oh, quel soulagement! Et à côté, il y a le frère, au bout de la table. Avec le regard comment? Revolver! Ah oui, tu crois que ça va se passer comme ça, toi? Toi, tu crois que tu vas revenir à la maison et que tout va bien, hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces visages? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces regards? La rancune, la vengeance? Le désir peut-être même de faire mal? Profite bien parce que dès que j'aurai l'occasion, je vais bien te ramener, toi. Et c'est là que l'on comprend que derrière cet état d'esprit, il ne peut pas y avoir l'esprit de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu. Et même si je caricature un peu les traits, la réalité du sentiment est là. On sait bien que Dieu ne juge pas seulement aux actes, mais il regarde au fond du cœur, n'est-ce pas? C'est bien le sentiment qui... C'est la racine des choses que Dieu considère. Ce n'est pas seulement le fruit. T'entends, le fruit n'a pas le temps de venir, mais Dieu va quand même considérer la racine de ça. Et c'est pourquoi Dieu est exigeant à l'égard de ses enfants par rapport au non-pardon. Parce que nous sommes des ambassadeurs, parce que nous ne sommes pas appelés à diviser, mais nous sommes appelés à avoir le ministère. Il est dit en 2 Corinthiens que nous avons le ministère de la réconciliation. C'est même un devoir, c'est notre rôle de réconcilier. Et que derrière un non-pardon, il y a forcément de mauvais sentiments, cachés, dissimulés, couconnés, et que ça ne peut pas rentrer au ciel. Alors je voudrais quand même terminer sur un bel exemple de pardon. Là aussi un bel exemple de pardon, de la même manière que je trouvais que Adam, moi franchement je tire mon chapeau, hein. Avoir pour femme quelqu'un qui a tout saccagé, et lui donner un si beau nom, moi, je dis franchement chapeau Adam, chapeau. Je sais pas si j'aurais réussi à être pareil parce que franchement c'était... Mais il y a un bel exemple, c'est en Genèse chapitre 32-33, mais l'histoire commence bien avant. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü, deux frères. Et là encore c'est le cadet là, qui a usurpé, volé la bénédiction du frère Ésaü. Il a trompé son père. Il a été là, je parle de Jacob, il a trompé son père. Il a menti à son père. Avec l'accord de la mère. Et puis après, il a pris la bénédiction. Il a fui parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Comme un fuyard, là. Et le frère Ésaü, il ne restait plus que les miettes. Il était en colère, il nous a dit, hein, le texte, hein. Il a fui parce que Jacob savait qu'Ésaü pouvait, dans un élan de colère, le... Légitime, hein, encore, on en reparle de cette colère-là. Hein. T'es légitime, il avait de quoi hurler, Ésaü. Attends, comment t'as pu faire ça à ton père? Non mais, quand on se remet dans la situation, Jacob est allé loin. Et on sait que c'est bien souvent dans les histoires de frères et de sœurs que les histoires sont les pires. Hein. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de pire que des colères entre frères, hein, que des discordes entre frères. Il est allé loin, Jacob. Il y avait véritablement raison de le corriger bien sévèrement. Bref, il fuit. Les années passent. Et on comprend aussi pourquoi il est resté aussi longtemps. Parce que la conscience de Jacob n'était pas tranquille. Ne croyons pas qu'il est parti en disant « Je les ai bien eus ». C'est faux, parce qu'une fois qu'il avait fait son service chez Laban et qu'il a fallu revenir, Ça travaillait au-dedans. Il avait peur de rencontrer son frère Esaü. Et c'est pour ça qu'il a envoyé plein de cadeaux. Il a envoyé des cadeaux. Il sort d'Amadoué. Oh là 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 là. Parce que s'il me rencontre, il va me fracasser. Et d'ailleurs, on le prévient. Ton frère est là-bas, avec des hommes, 400 hommes. Oh, ça va chauffer. On envoie. Et là, c'est magnifique. Genèse 33, verset 4. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. C'est beau, hein? C'est beau. Parce que pendant des années, ces deux bonhommes-là ont passé des années et des années avec une histoire pas réglée. L'un qui avait peur de rencontrer l'autre, et l'autre, on ne sait pas trop quel sentiment on pouvait avoir, Esaü, mais de quoi être humilié quand même. Être spolié de son héritage spirituel, être spolié de son héritage matériel. Tout ça avec l'autre qui est parti comme un fuyard, comme un poltron, même pas capable d'assumer ses choses. Il y avait de quoi que ça explose, hein. Et bien c'est Esaü, l'offensé, qui est allé vers lui, qui s'est jeté dans ses bras, qui l'embrassa. Et les deux, conscients que ce pardon a été pour eux libérateur, comme on l'a vu la dernière fois, se sont mis à pleurer, serrer les bras l'un dans l'autre. Alléluia. Ça, c'est le pardon de Dieu que nous devons communiquer. C'est le pardon que nous devons transmettre. En conclusion, tout être humain doit découvrir le pardon de ses péchés, premièrement en Jésus-Christ. Mais le chrétien a le devoir. On a le devoir, par notre conduite, de montrer ce pardon à ceux qui nous entourent. Ainsi, en pardonnant, soyons bien clairs, en pardonnant, nous nous justifions nous-mêmes. Vous avez compris le processus ? Votre Père ne vous pardonnera pas si vous-même, vous n'avez pas pardonné avant. Le pardon nous justifie. Le pardon justifie l'autre. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, en ne pardonnant pas l'autre, je le maintiens dans sa faute. Je le maintiens dans sa honte. Je le maintiens. Si on se projette dans l'histoire de Luc 15, ah oui, le petit frère, il est rentré à la maison, il y a le grand sourire de papa-maman, mais à côté, chaque fois qu'il voit la tronche de son grand frère, la joie est cassée. Sa faute est rappelée. Donc, en pardonnant, on justifie, on rétablit l'autre sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Et on ne crée pas de pression de manière à ce qu'il craque. Et en pardonnant ainsi, c'est une puissance de libération, de déculpabilisation, de libération des uns et des autres. Amen. Le pardon nous justifie et justifie le pécheur. Alléluia.